les rendez-vous du Mondial du bâtiment, Construction 4.0, une émission animée par Nathalie Croiset.
On en arrive donc dans ces rendez-vous du Mondial du bâtiment à la construction 4.0, une séquence où on s'intéresse régulièrement au BIM, au Lean, au 3D, mais aussi au hors-site. Et en fait, ça va être l'occasion de faire le point sur le hors-site et la construction industrialisée et modulaire à l'occasion notamment de la sortie du baromètre annuel hors-site dont on va parler dans un instant avec Pascal Chazal, bonjour.
Bonjour Nathalie.
Alors, CEO de Patch Conseil, aussi du campus hors-site, qu'on retrouve avec grand plaisir pour détailler ce baromètre. Et puis, pour parler aussi, comme je disais, de construction industrialisée et modulaire, Hervé Rémolo, bonjour.
Bonjour Nathalie.
Donc, délégué général de la CIM. Là encore, vous revenez aussi en deuxième semaine ici avec nous. On est ravis de vous accueillir. Alors, avant de rentrer dans le détail, dans le baromètre annuel hors-site dont on va parler, il y a aussi une autre enquête de conjoncture 2020 Asterès sur la construction industrialisée et modulaire. Qu'est-ce qu'on peut en dire finalement? Le secteur s'en est sorti pas trop mal?
Oui. Vous permettez, Nathalie, je resitue un petit peu le secteur,
oui,
justement,
allez-y,
avant d'entrer,
oui,
là-dedans.
Oui.
Secteur, d'abord, qu'il est difficile à cerner, parce qu'il n'y a pas de code d'activité, construction hors site, module, donc on a des gens qui sont dans la location, on a des gens qui sont dans la construction, etc. Néanmoins, c'est une filière qui s'est organisée ces 15 dernières années autour de son syndicat professionnel, la CIM, les acteurs de la construction industrielle et modulaire. Ouais. Oh là là, vous avez raison, on est vendredi, il fait une chaleur ici.
Vous n'y êtes pas là depuis 2h30 comme moi.
Et en fait, aujourd'hui, on estime que ce syndicat représente à peu près 8000 emplois, une cinquantaine d'acteurs. On ne prétend pas tous les recenser, mais ils sont là. Et c'est un secteur qui est en pleine croissance. 700 millions il y a 2-3 ans, 800 millions, et là, on passe le cap du milliard. Quelques grands dossiers se positionnent vis-à-vis de la RE 2020, des calculateurs carbone, parce qu'on va travailler sur les empreintes carbone. On travaille beaucoup sur tout ce qui est certification QB aussi, et la normalisation. D'ailleurs, c'est un secteur qui a un problème avec la normalisation, parce que la normalisation du bâtiment, qui est ancestrale et qui date depuis des années, le hors-site, il faut quasiment tout inventer. Sur la conjoncture, c'est pas un secteur qui se distingue d'un autre. On a été autorisé à travailler, tout s'écroule en mars 2020, et puis après, ça repart normalement. Ce qu'on observe, c'est problématiques d'approvisionnement sur les matériaux, rien d'original, avec les problématiques de coûts qu'il y a derrière. Finalement, les gens dans la location, parce que les opérateurs du module, qu'est-ce que c'est? Ce sont soit des loueurs purs, c'est-à-dire je fais de la location de modules que j'achète à un constructeur, soit des constructeurs qui eux-mêmes font de la vente ou de la location et qui ont un pied dans la location courte ou longue durée et dans le monde du bâtiment. On y reviendra tout à l'heure, puisque c'est un secteur qui rentre très fort dans le monde du bâtiment. Ces gens-là, notamment dans la location, pendant la crise sanitaire, ils ont eu une chance, entre guillemets, c'est qu'une base vie qui est installée sur un chantier, on ne l'a pas démontée. Contrairement au matériel qu'ont eux été en location, une mini-pelle par exemple, on lui disait « Monsieur, venez chercher votre engin ». Les ventes d'occasion ont bien résisté, parce qu'il a fallu quand même fournir certaines choses qu'on ne pouvait pas fabriquer. Et puis sinon, après, la location et la vente du neuf, c'est en baisse, on est à peu près à moins 4%. Donc, rien d'original. Problématique de recrutement des techniciens, mais ça aussi, c'est pas nouveau. Et finalement, c'est une année qui va finir globalement, si on prend tous les chiffres d'affaires, à moins 4. Moins de ventes et de locations dans l'administration, un petit peu plus dans l'industrie, et puis un petit peu moins dans le BTP.
Mais on va dire quand même, c'est un secteur qui s'en sort plutôt pas trop mal, vu ce qu'on a traversé.
Alors, les gens qui étaient notamment en location pure dans l'événementiel, on va pas en parler, s'est littéralement effondré, et c'est pas encore tout à fait reparti. 2021, franchement, optimisme. À part ces problèmes d'approvisionnement qu'on a évoqués. Donc, une année, ça y est, on est en sortie de crise. Ça travaille beaucoup. Le problème, maintenant, étant effectivement de pouvoir fournir, de pouvoir circuler, de pouvoir livrer. Mais rien d'original, et ça va plutôt bien. Puis avec un moyen et long terme, j'ai envie de dire que l'avenir appartient au hors-site. Pascal nous en parlera mieux que ça, mais voilà.
On va passer justement, après avoir vu cette conjoncture, un peu à ce baromètre annuel hors site, et vous pourrez évidemment commenter ce que va dire Pascal Chazal dans un instant. Alors déjà, mieux comprendre, peut-être réexpliquer ce qu'est ce baromètre annuel hors site. Donc c'est une étude en fait qui décrypte les attentes, les comportements, les usages des acteurs de la maîtrise d'œuvre et de la maîtrise d'ouvrage face à ces sujets.
C'est ça. Alors en fait, il n'y avait pas d'éléments véritablement sur cette évolution du hors site que Hervé vient de mentionner. On voit bien que ça avance, on voit bien qu'il y a une demande qui est de plus en plus forte, les acteurs s'organisent.
D'ailleurs, on le voit concrètement à travers chaque séquence, on a des illustrations concrètes, vous-même vous venez en parler, donc il se passe des choses. Quoi.
Totalement. Alors que c'était quelque chose finalement d'assez neuf, hein, on parle de hors-site seulement depuis 3 ou 4 ans, donc c'est très très récent. C'est un mouvement qui était en avance dans d'autres pays, hein, qui sont plus en avance que nous, comme le Royaume-Uni par exemple. Et en France, c'est un petit peu nouveau. Mais donc, on avait quelque part envie d'en savoir un petit peu plus. Et donc, on a imaginé avec Batimat et puis avec le campus, eh bien, de mener une enquête pour savoir un petit peu ce qu'il en était et quelles étaient les attentes des uns et des autres. Est-ce qu'ils font déjà du hors-site? Est-ce qu'ils veulent en faire? Est-ce qu'ils veulent développer ces méthodes-là? Et donc, voilà, on a lancé ce baromètre donc auprès de... sur un fichier de 5 à 6 000 acteurs, on en a interviewé à peu près 200. Voilà, et donc...
Ça, c'était en juin dernier, hein, c'est
oui,
ça.
Absolument, absolument. Et donc, c'est très, très intéressant.
Alors, on va décrypter les chiffres, justement. Vous voulez en parler. Il y a près de la moitié, hein, c'est ça. 47% des professionnels qui ont déjà mis en place le hors-site dans leur projet.
C'est ça. C'est ça. Donc, dans ceux qui ont été interviewés, effectivement, 47% ont déjà mis en place du hors-site dans leur projet. Alors, quand on parle de hors-site, la notion de hors-site, elle est extrêmement simple, finalement. C'est... au lieu de tout faire sur le chantier, eh bien, il y a des éléments que je vais plutôt fabriquer dans un atelier, fabriquer dans une usine, et ça peut prendre vraiment tout un tas de formes. Donc, quand on leur pose la question, est-ce que vous avez déjà mis en place du hors-site, donc 47% nous disent oui, et ça se détaille en différents segments. Alors, on a, par exemple, 70% qui nous disent avoir utilisé des éléments structurel, donc ça peut être des poutres, ça peut être des poteaux, ça peut être des éléments de plancher, etc. On en a 75% qui nous parlent d'éléments 2D, donc les éléments 2D, c'est typiquement des façades à ossature bois, mais ça peut être aussi des façades en béton ou autre.
Donc ça, on peut dire que ce sont les segments, on va dire, les plus matures.
Les plus matures, voilà. C'est ce qui ressort vraiment de l'enquête, c'est que les secteurs les plus matures en France, effectivement, et de la vie, donc des personnes qui étaient interviewées, c'est vraiment le 2D qui aujourd'hui est le plus mature. Et on verra d'ailleurs que c'est assez étonnant parce que ceux qui n'ont pas encore utilisé leur site, eux, ils pensent que ce qui va le plus se développer, c'est le troisième segment qui est le modulaire 3D volumétrique. Donc, c'est les grosses briques de Lego, hein, avec lesquelles on va finalement construire nos bâtiments. Et donc là, on a quand même 67% hein, des gens qui ont utilisé leur site, qui ont utilisé le 3D modulaire. Ensuite, il y a le segment des éléments qui sont non structurels. Donc, par exemple, des salles de bain, salles de bain préfabriquées, eh bien, ça a été utilisé aussi à 66%. Et puis, un petit peu d'impression 3D, qui font aussi partie des techniques, bien sûr, de construction hors site. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils nous disent, pour la plupart, qu'ils y ont vu des avantages nombreux.
Oui, ils ont plusieurs bénéfices, oui.
Plutôt plus nombreux que ce qu'ils avaient espéré. notamment sur les délais, l'amélioration des délais, ça c'est très net, à 92% ils nous disent que ça a été tenu. La réduction également sur l'impact environnemental, ça c'est aussi quelque chose qu'on voit pas toujours, mais le fait de transférer des tâches dans un atelier, dans une usine, ça va nous réduire considérablement le nombre de camionnettes.
De transport, exactement, et puis on parlait de l'impact des transports il y a un instant, c'est aussi central.
Ça nous permet aussi d'améliorer les déchets, ça nous permet d'utiliser les matériaux vraiment à l'optimum. Donc ça, ils l'ont bien noté. Également, on voit une très nette amélioration de la qualité.
Oui.
Ça, c'est très clair. Ça aussi, ça permet aussi de sécuriser les opérations. Et on va dire le point un petit peu le plus faible, qui est bien sûr attendu par tout le monde, c'est la notion du coût, où ils constatent par contre que l'amélioration du coût n'est pas encore au rendez-vous. Et ça, c'est vraiment un sujet dont il faut qu'on parle parce qu'il y a plein de raisons pour ça.
Oui, Hervé Rebelot, hein, vous pouvez réagir.
Quand tu évoques la qualité, je suppose que ce sont les non-conformités qui sont là derrière.
Oui, bon, on le sait bien, quand on construit de manière classique, on sait très bien que la fin des chantiers, c'est toujours difficile. Ce qu'on appelle les réserves de fin de chantier, eh bien, bien sûr, quand on arrive avec des éléments qui sont fabriqués en usine, donc on réduit considérablement le nombre de réserves.
Et ça renvoie à la notion de coût aussi, parce que je vous rappelle qu'il y a quelques années maintenant, les assureurs ont sonné le tocsin en disant attention, attention à la couverture des non-conformités, c'est devenu un vrai problème d'assurance. Donc, la qualité renvoie directement au coût.
Alors, la problématique, souvent, c'est que quand on parle de coût dans le monde du bâtiment, on a tous en tête le tableau Excel avec l'objectif de coût. Hein. Effectivement, on n'a pas cette vision en coût global et tout ce qui va venir après. Et d'ailleurs, c'est vraiment une notion qu'il va falloir être capable de prendre en compte, parce qu'on sait aujourd'hui que le coût de construction d'un bâtiment, ça représente seulement 20% du coût du bâtiment exploité sur 50 ans.
Sur 50 ans, exactement. Mais en tout cas, c'est vraiment l'un des points, c'est une attente très forte, évidemment, de toute façon, quand on parle de coûts, d'économie, etc. Mais dans tout ce qui ressort et d'un tableau global que vous avez pu faire, c'est quand même le bénéfice qui est le moins souvent atteint dans les projets des utilisateurs.
Et alors moi, j'aurais tendance à dire que c'est finalement pas tellement étonnant, parce qu'aujourd'hui, l'approche de la construction sur site, c'est une approche industrielle. Et cette approche industrielle, malheureusement, on ne l'a pas dans le bâtiment. Et la plupart des acteurs qui pratiquent aujourd'hui leur site viennent du bâtiment et vont vers la construction hors site avec une approche bâtiment et non pas avec une approche industrielle. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a tendance à faire des prototypes à chaque fois. Un industriel, il ne peut pas faire des prototypes à chaque fois. Pour que l'industriel soit efficace, il faut quelque part être capable de répéter les tâches. Donc ça veut dire apprendre à rationaliser, apprendre à standardiser. Ça, c'est un mot qu'on n'aime pas dans le bâtiment. mais on a aujourd'hui, heureusement, des exemples très nombreux de bâtiments qui ont été construits en utilisant de l'industrialisation et de la standardisation. Et je vous mets au défi de savoir s'ils ont été préfabriqués ou pas, tellement ils sont fantastiques.
Alors ça, là, on a dressé un constat. On va parler dans un instant aussi comment le favoriser, hein, ce développement du hors-site. Je pense que vous n'allez pas dire le contraire. Peut-être, Hervé Imbolo, réagir déjà à ce qui a été présenté par rapport à ces premiers résultats.
J'ai envie de dire que tout est dit, effectivement. Après, je vois que Pascal a des mots. Il va se faire des amis dans le bâtiment. Hein. C'est vrai que moi, j'ai la chance de venir de l'industrie, de voir un petit peu comparer les méthodes, on est dans deux univers totalement différents et je rejoins complètement Pascal. Les gens du bâtiment vont devoir apprendre des méthodes plus industrielles, plus rationnelles. Je sais qu'on ne se fait pas que des copains quand on parle comme ça, mais c'est une réalité.
Et en tout cas, vous avez la sensation que la différence, on va dire, le curseur entre le bâtiment temporaire et le bâtiment définitif est en train d'évoluer, si on peut dire.
Tout à l'heure, Pascal disait, on a vu que de ces 3-4 dernières années, ça bougeait. Moi, j'étais frappé par le phénomène d'accélération. Ça bouge, mais c'est... Et on enfonce des portes ouvertes. C'est l'avenir. C'est-à-dire qu'à la limite, c'est que soit Pascal ou un autre qui le dise, ça nous dépasse. c'est un petit peu comme la location. Tout va être location dans quelques temps. Bon, je sais que là aussi, ça déplaît quand on en parle, mais oui, clairement. Il y a déjà des bâtiments qui existent qui sont absolument incroyables et qui sont fiables. Et il suffit d'aller visiter Londres. Pascal nous a amené visiter Londres sur ce thème-là il y a 3-4 ans déjà. C'est absolument incroyable ce qui a été réalisé là-bas. Quoi. Et effectivement, nous sommes un petit peu en retard par rapport aux anglo-saxons.
Mais on va faire bouger les lignes.
On est là pour ça.
Alors, dans cette étude, c'est ce que je disais, il y a le constat aussi de l'utilisation du hors-site, mais aussi comment favoriser le développement. Là aussi, vous avez posé des questions. Et quelles sont les attentes aussi?
Alors, en fait, ce qui revient vraiment très souvent, et c'est à 85% dans les acteurs, on est toujours sur les acteurs qui utilisent, ou en tout cas nous disent utiliser le hors-site, eux, ils constatent aujourd'hui qu'on ne peut pas faire du hors-site si on ne travaille pas plus dans un mode collaboratif.
Oui. Voilà.
Et donc, c'est vraiment, vraiment flagrant, ils nous disent à 85%, pour réussir, il faut, un, penser hors-site dès le début, et deux, collaborer beaucoup plus. Et ils ont, pour certains d'ailleurs, rencontré des difficultés.
Oui, ils sont quand même 58% à dire avoir rencontré des difficultés.
Qui ont rencontré des difficultés pour mettre en place cette collaboration qui permet de favoriser leur site. Et ça, c'est vrai qu'on a l'habitude d'avoir plutôt des organisations segmentées, en silos, un peu chacun pour soi, etc. Et ça favorise pas effectivement la construction hors site.
Donc ça, c'est un peu la difficulté. Ils ont même aussi rencontré des difficultés au cours des projets les plus réussis aussi. Ils le disent, ils sont 42% à le dire aussi.
C'est ça.
S'ils sont contents du résultat final, on va dire, bon, ça, il a fallu ramer et prendre
tout
un peu l'air.
Alors c'est vrai qu'on constate bien entendu que c'est quelque chose de relativement nouveau, donc il faut comprendre ces nouveaux codes. Donc ils sont tous aujourd'hui, d'abord, un, ils veulent tous continuer à faire du hors-site.
Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Clairement. Mm-hmm. Et ils ont besoin de s'en emparer un peu plus. Donc, ils sont tous très demandeurs d'avoir des retours d'expérience, d'avoir des visites d'entreprises, d'usines, des visites de sites, etc. Ils sont très demandeurs de formation. Mm-hmm. Et puis, bien entendu, de quelques évolutions réglementaires, parce qu'il y a certains sujets sur lesquels, effectivement, la réglementation, elle était faite pour de la construction classique et traditionnelle. Mmh. On est en train d'arriver avec des choses nouvelles, et bien, il va falloir que la réglementation, oui, elle suive le mouvement.
Oui, Hervé, oui.
Je souris parce que tu as tout à fait raison, Pascal. Formation, il va falloir former les gens. Mmh. Évangéliser. Et puis, l'évangélisation, là aussi on va continuer de se faire des amis, après tout on est vraiment dit, quand on voit les prises de position de certains de nos amis architectes, c'est assez surprenant quoi, on est anti hors-site, alors certes pas tous, hein, il y en a qui sont très bien.
Non, parce qu'il y en a certains en plateau qui sont venus dire l'intérêt que ça représentait pour eux.
Sauf que certains des représentants de leurs ordres et autres ont quand même sorti quelques cartouches ces derniers mois qui nous ont beaucoup surpris. Mmh. Beaucoup surpris, à la limite de l'attaque inutile d'ailleurs. Voilà, c'est dit un ami de plus.
Pourtant, l'architecte, il a un rôle à jouer justement très en amont, c'est ça. Il peut justement finalement prendre les choses en main peut-être. Enfin,
l'architecte a un rôle absolument essentiel et ça serait dramatique si les architectes ne s'intéressaient pas à la construction de site. Mmh. Heureusement, ce n'est pas le cas, il y en a tout plein qui s'y intéressent. Encore une fois, il faut qu'ils s'emparent un petit peu du sujet. La première approche, c'est de dire, ah ben, on va empiler des boîtes, donc finalement on n'a plus notre rôle, quoi. Hein. Et en fait, au contraire, ils ont un rôle tout à fait essentiel. La construction hors site, il faut quand même le rappeler, c'est vraiment un sujet qui répond à des enjeux tout à fait considérables, notamment parce que on a besoin d'aller très vite aujourd'hui en termes de construction et de rénovation. Mmh. On sait que si on veut atteindre la neutralité carbone en 2050, le bâtiment a un rôle immense à jouer. Donc ça veut dire qu'il faut faire beaucoup plus de rénovation. Mmh. Il faut faire beaucoup plus de construction de qualité, hein, capable de répondre aux nouvelles normes. Et on sait que la main-d'œuvre qualifiée, elle est en train de partir à la retraite. Elle n'est pas suffisamment remplacée par les jeunes qui sont peu attirés par les métiers du bâtiment. Donc comment est-ce qu'on fait pour faire plus de bâtiments, plus complexes, avec une manœuvre qui est en train de disparaître? Mmh. Eh bien, il n'y a pas 50 solutions. Et la construction hors site est vraiment une des voies. Donc, ça veut dire que les architectes, ils doivent s'emparer de ça. Et ils doivent apprendre à faire leur métier avec ces évolutions. Mais ils ont déjà vu ça par le passé. Hein. Ils ont bien appris, certainement, à construire avec le béton et puis avec l'acier, etc. etc. Donc, moi, je suis assez confiant pour que les architectes s'emparent du sujet. Il y en a tout plein qui le font.
Mmh. Et alors, pour ce qui est de l'information, ce que vous le disiez, les professionnels, ils sont 64% à dire qu'ils ont besoin de davantage de retours d'expérience, oui. 71% à dire des informations sur les systèmes constructifs. Ça, c'est un angle qu'il va falloir aussi développer. Bon, à travers notamment votre campus hors site, vous le faites, mais je pense qu'il y a besoin de bouger d'autres acteurs là-dedans.
Alors, ça, c'est vraiment la formation, c'est vraiment quelque chose de crucial et d'essentiel, parce que, je le disais tout à l'heure, leur site, c'est une approche industrielle. Et on n'est pas du tout formé à penser les bâtiments avec cette approche industrielle. Et donc, le campus, eh ben, c'est la première école de formation sur le sujet. Mmh. Alors, je le rappelle, c'est une école qui existe sur virtuel sur Internet, donc on peut aller se former gratuitement, faire des parcours de formation et des modules de formation. On commence notre première session de formation qui s'appelle les fondamentaux du hors-site, ça c'est donc en présentiel, c'est fin novembre, 25-26 novembre, il reste encore des places.
Voilà, on a de la publicité, on avait déjà quelque chose le 26 novembre, mais c'est du côté d'Orléans, donc là on peut aussi se connecter sur Internet, c'est parfait.
Et c'est très important parce que on le voit bien quand on pratique les formations avec le campus, on voit bien sur une journée de formation simplement, quand on présente les fondamentaux du hors-site, on voit les mécanismes se mettre en place. Mmh. Et les gens se mettent à comprendre, ah, voilà pourquoi on n'y arrive pas, voilà pourquoi on n'atteint pas le budget, parce qu'en fait on n'a pas compris cette nouvelle logique. Mmh. Et cette nouvelle logique, il faut l'apprendre. Et le campus est là pour ça, mais le campus suffira pas. Il va falloir vraiment. Moi, je propose qu'on fasse un plan Marshall de la formation pour aller vers la construction hors site.
Et vous parliez de la. Oui, vous allez pouvoir agir. Vous parliez aussi de la réglementation. Ça, c'est un souci aussi qui apparaît. C'est le manque de visibilité sur la réglementation. Ça, c'est un point aussi pour les acteurs.
Alors aujourd'hui, on fait avec la réglementation telle qu'elle est. On essaie de passer à travers les mailles du filet. Moi, je connais bien sûr bien le bois. Mmh. Et par exemple, on sait faire de la construction modulaire bois en s'appuyant sur le DTU 31.2 au Satur bois. Parce qu'il est écrit dedans que le modulaire a déjà été prévu. Mais ça va bien au-delà de ça. Et effectivement, quand on va vers de l'innovation, le risque, c'est qu'on... On met ceinture, bretelles et parachute. Et donc, on empile des couches. Et après, on s'étonne de ne pas atteindre le prix. Alors, d'un côté, on a un système qui est hyper maîtrisé, parce qu'on sait qu'une dalle de béton de 20 cm, ça répond à toutes les exigences. Et puis, de l'autre côté, si on veut faire un plancher bois, on va mettre 24 couches, parce qu'il faut rassurer tout le monde. Donc, c'est là-dessus où, effectivement, on a besoin de faire évoluer les choses. Et là, on a besoin du CSTB, on a besoin des bureaux de contrôle qui s'emparent du sujet et qui nous aident à le faire avancer.
Vous vouliez réagir aussi, hein ?
Oui, effectivement, sur la formation, Pascal, porteur du magnifique projet Campus hors site, la CIM est très proche et soutient. Il y a aussi, vous les avez reçus aussi, le CESI Grand Ouest, oui. Il y a un master actuellement, donc c'est dire que la profession croit à cette notion de formation. Sur la problématique réglementation, normalisation, etc., il y a un double effet, c'est qu'effectivement on vit avec la réglementation d'aujourd'hui, et en plus l'écosystème en charge de cette réglementation n'est pas du tout familiarisé au hors site. Donc ce deuxième effet, on le voit bien, c'est compliqué de discuter. On y arrive, hein, maintenant on a des interlocuteurs, mais il y a un très très gros travail à fournir dans les mois, les années qui viennent encore sur ce sujet-là.
Alors il y a la formation, puis il y a aussi, c'est ce qui ressort hein, quand on pose la question, quels sont les freins au développement. Alors il y a la question de la réglementation, j'en ai parlé, des compétences aussi, parfois du manque d'entreprises aussi d'industriels, oui. Mais ce qui arrive en tête à 64%, c'est la culture d'entreprise, oui. de métier. Et ça, c'est encore, il y a encore des choses à faire bouger.
Oui, Pascal alors énormément. Chazal. C'est vraiment un sujet culturel, en fait. Hein, c'est vraiment un sujet culturel. Vous savez, le chantier, le bâtiment, en fait, s'articule autour du chantier. Et quelque part, tout le monde pense chantier. Et on a, depuis les années d'après-guerre, vous savez, pendant les années d'après-guerre, on a beaucoup utilisé la préfabrication, et peut-être trop. Et d'ailleurs, on était sur des bâtiments qui étaient très standardisés. Hein, on a fait les banlieues, etc. Et donc, il y a eu un retour de bouclier, un retour de flamme dans les années 75-80, où finalement, on nous a dit, vous êtes en train de nous massacrer de notre pays, les gars. Il va maintenant falloir, chaque fois que vous concevez un bâtiment, le concevoir spécifiquement pour l'endroit où il va être construit. Donc, et c'est cette notion de sur-mesure qui est devenue complètement exacerbée, à tel point que quand on construit un bâtiment, on construit vraiment un prototype, mais de la cave au grenier. Et c'est assez... Les gens de l'industrie, mais ils nous prennent pour des dingues, hein, quand on leur explique ça. Parce que tous les industriels, en fait, ils vont faire des produits, même s'ils font des produits très spécifiques, ils vont le faire sur la base de processus, qui sont des processus standardisés. Et puis, ils vont même aller chercher des éléments en bibliothèque. Par exemple, un fabricant de voitures, quelqu'un qui est dans un bureau d'études chez Renault, n'a pas le droit d'inventer une nouvelle pièce. Il va chercher une pièce qui existe dans le catalogue. Nous, on a toutes les possibilités. On peut tout faire et tout inventer. Et mon Dieu, il suffit d'aller à Batibat pour voir la quantité phénoménale de produits qu'on peut utiliser. Et en fait, tous ces produits, ben, on va les mettre en œuvre finalement sur un chantier. Et aujourd'hui, ben, on voit que c'est vraiment devenu très compliqué. On voit qu'on n'arrive plus à tenir nos délais. On voit que la qualité, c'est difficile, etc., etc. Donc, il faut apprendre à penser différemment. Et quelque part, si on veut réussir... C'est assez simple, hein. Si on veut réussir la construction hors site, il faut pas seulement s'intéresser aux métiers tels qu'on les connaît, c'est-à-dire le maçon, le plombier, l'électricien, mais il va falloir apprendre à optimiser l'objet qu'on veut fabriquer. Si je prends l'exemple des salles de bain, je fais par exemple du logement, je voudrais préfabriquer mes salles de bain. Eh bien, nous, on fait l'exercice très couramment avec nos maîtres d'ouvrage, hein. On regarde leur projet. On va prendre un plan d'étage, on va se rendre compte, tiens, on voudrait préfabriquer les salles de bain, on va se rendre compte qu'on ne peut juste pas y arriver parce qu'il n'y a pas une salle de bain pareille. Par contre, si on part de l'idée qu'on voudrait préfabriquer les salles de bain et que pour le faire bien, il faudrait les standardiser, en fait, on y arrive parfaitement bien. C'est juste une question d'approche. Il faut inverser un petit peu le processus et apprendre à optimiser l'objet qu'on veut fabriquer en usine. Alors, ça peut être une salle de bain, ça peut être une façade, ça peut être un module pour une chambre d'EHPAD, par exemple. Mm-hmm. Voilà. Et c'est cet objet-là qu'il va falloir apprendre à concevoir efficacement pour la fabrication. C'est ce qu'on appelle le Design for Manufacture and Assembly, le fameux DFMA.
Et pour bien enfoncer ce clou-là, ça n'empêchera pas la créativité, l'originalité, ça n'empêchera pas de faire du beau comme du moche, d'ailleurs. C'est pas parce qu'on parle industrie standard ou autre et grande série qu'on pourra faire de très très belles choses aussi.
Donc ça, on peut dire que ça peut être le mot de conclusion à ce baromètre. Vous n'avez plus rien d'autre à ajouter
si,
l'un ou l'autre.
Si, ça y est. Une petite chose, parce qu'on n'a pas du tout parlé des non-utilisateurs.
Oui, c'est vrai, il faut le dire. Alors allez-y.
Les non-utilisateurs, en fait, ils étaient donc 53% à avoir été interviewés. Et alors eux, à 82%, ils nous disent on va utiliser du hors-site dans l'avenir.
Voilà, donc c'est un mot de conclusion plutôt positif.
Voilà, tout à fait. Et notamment, ils mettent en avant le 3D auquel ils croient beaucoup. Alors, ils le pratiquent
pas
aujourd'hui.
Oui, vous en parliez, oui.
Mais ils voient vraiment beaucoup d'avenir dans la construction 3D modulaire.
On sait bien, on a plein d'amis à venir.
C'est voilà, c'est ça. Vous en avez écarté certains, mais il y en a d'autres qui vont revenir. Bah, merci à vous pour cette présentation de ce baromètre annuel hors-site avec Batimat. Merci Pascal Chazal, CEO de Patch Conseil et du Campus hors-site, et Hervé Rémolo, donc délégué général de l'ASIM. Merci pour votre commentaire. Alors c'est amusant parce que vous parliez de salle de bain. Bah, figurez-vous qu'on va passer à la séquence tendance et design et s'intéresser à la douche italienne, à l'italienne en rénovation. Voyez, ce sera dans un court instant.
Les rendez-vous du Mondial du bâtiment. Construction 4.0, une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.